Bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par le pasteur Redouane S. Banti. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour et bienvenue à ce temps de culte radiophonique sur Radio Alliance Plus. Que la paix du Christ soit avec vous, où que vous soyez, à la maison, sur la route, au travail peut-être ce week-end, ou bien tout simplement vous déambulez tranquillement. Aujourd'hui, nous méditons sur ce thème « Marcher entre ombre et lumière ». Dans un monde où le bien et le mal se côtoient, où la vérité et le mensonge se mélangent, la foi ne consiste pas à fuir, mais à tenir debout, humblement, dans la lumière de Dieu. Que ce moment de prière et d'écoute nous aide à trouver cet équilibre. La musique que nous venons d'entendre est tirée d'un cantique. Grand Dieu, nous te bénissons et nous invite aussi à la prière. La prière, en fait, n'est ni refuge, ni dérobade, ni appel au miracle. La vraie prière, voyez-vous, exige que nous cherchions à faire nous-mêmes ce que nous demandons à Dieu de faire. Si je demande notre pain chaque jour, je dois moi-même donner ce pain à ceux qui en manquent. Si je prie pour la paix, je dois moi-même m'engager sur le chemin de la paix. La prière n'est pas faite de mots en l'air. Nous ne pouvons prier que si nous sommes pleinement responsables de ce que nous disons. Alors seulement, nous goûterons à quel point la prière est la reconnaissance de la puissance et de l'initiative de Dieu. C'est cela l'Évangile. Prier. Bras en croix, le Dieu qui n'aime pas, les bras croisés. Seigneur, nous venons vers toi, tel que nous sommes, avec nos zones claires et nos zones d'ombre. nos élans et nos lassitudes. Donne-nous d'accueillir la lumière sans orgueil et de traverser l'ombre sans peur. Que ta parole éclaire nos pas de ton esprit, ouvre nos cœurs et que ce temps de culte soit pour chacun, chacune, une respiration. Amen. Avant de partager les deux lectures que je vous propose pour la méditation de ce matin, je voudrais vous raconter une petite histoire, puisque l'hiver approche. Une nuit d'hiver, une famille de hérissons n'arriva pas à dormir tant le froid était vif. Ils décidèrent donc de se serrer les uns contre les autres pour se réchauffer, mais ils avaient oublié leur piquant. Chaque fois qu'ils tentaient de se rapprocher, ils finissaient par se piquer douloureusement. Jamais le groupe ne parvint à rester uni. Certains tentèrent de se rapprocher à nouveau, mais à chaque fois, ils se piquèrent le museau. Pourtant, il fallait absolument trouver comment se rapprocher. Les oiseaux y arrivaient, les lapins, les taupes, tous les animaux aussi. Enfin, au bout d'un certain temps, ils comprirent. Et tout doucement. Tout doucement, petit à petit, soir après soir, ils s'approchèrent les uns des autres en rétractant leurs piquants. C'est ainsi qu'avec mille et une précautions, ils trouvèrent la bonne distance pour dormir heureux et au chaud. Cette petite histoire nous dit une profondeur de la vie quotidienne. Et cette profondeur trouve toute sa source dans les deux textes que nous allons entendre maintenant. Deux lectures pour ce culte. La première lecture se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7, les versets 15 à 18. J'ai vu bien des choses sans valeur sous le soleil. Des justes qui périssent malgré leur justice, et des méchants qui vivent longtemps malgré leur méchanceté. Ne sois pas trop juste, et ne te crois pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Il est bon de tenir à ceci, sans lâcher, car celui qui craint Dieu sort de tout cela. La deuxième lecture se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13, les versets 24 à 30. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui a semé du bon grain dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer de l'ivraie au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé leva et produisit des épis, l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs dirent au maître, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Il répondit, « Non. » De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson.
Thank you.
Ces derniers jours, j'ai écouté la rumeur du monde telle qu'elle nous parvient. Amplifiée en fait par les chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux, la radio, les journaux. Et j'ai entendu une succession serrée de nouvelles partant dans tous les sens. Tandis que des astronomes captent l'image d'un trou noir au fin fond de l'univers pour la première fois dans l'histoire, on entend en même temps des colères populaires à répétition qui se déchaînent dans plusieurs pays. Tandis que l'intelligence artificielle se développe à une vitesse ultra rapide, on entend des attentats monstrueux qui sont commis ici et là. Et pour mémoire, il y a une dizaine d'années, nous eûmes ici, dans notre pays, ces affreux attentats qui ont décimé 132 vies. Alors que les neurosciences autorisent de réels espoirs dans le traitement des maladies mentales, des malheureux continuent de se noyer en Méditerranée et certains se radicalisent. Décidément, l'humanité est schizophrène. Notre humanité est déchirée entre les enjambées exponentielles du progrès et les rechutes dans le chaos. Les informations nous racontent une histoire de fou, témoignant d'un écart béant entre notre créativité qui se montre capable d'invention, de puissance, sans précédent d'ailleurs, au regard des civilisations passées, et notre faillite éthique, spirituelle, sociale. En effet, tous ces progrès vertigineux manquent singulièrement de sagesse. Et on se pose parfois la question, où nous mènent-ils ? Il nous manque aussi de la justice. Cette justice, à qui profite-t-elle ? Manque de sagesse, manque de justice. Un effort de la part de chacun pour commencer, en fait, ne serait pas superflu. Et voilà que l'Ecclésiaste nous rejoint. Et voilà que l'Ecclésiaste fait l'intéressant. Il pense à contre-courant, il n'a pas l'air de croire une seconde à l'efficacité de nos efforts, à nos bonnes intentions affichées. Et l'Ecclésiaste aligne ses paradoxes. Il nous dit « ne sois pas trop sage, ne sois pas trop juste, tu pourrais aller à des fins contraires. Regarde les méchants et les injustes, ils s'en sortent très bien, sois toi-même un peu méchant s'il le faut. » Est-ce là le discours d'un cynique, d'un provocateur, ou celui d'un fin connaisseur de l'âme humaine? Personnellement, j'opterai pour le troisième terme, mais il mérite quelques explications. Dans la Bible, la sagesse revêt un sens différent de la sagesse philosophique. Les commentateurs traditionnels ont envisagé sa portée religieuse. Dieu étant, par définition, parfaitement sage, il possède seul le discernement parfait entre le bien et le mal. Donc l'homme sage serait celui qui participe par sa foi à la sagesse divine et serait à la même d'apporter la bonne réponse en toutes circonstances. Or, cette sagesse-là, l'Ecclésiaste avoue qu'il n'a jamais pu l'atteindre. Elle est pour lui hors de portée. Est-ce que la foi mène à la sagesse ? Cela se discute. Prenez un fanatique, un croyant dur comme fer, persuadé d'être en communication directe avec le Très-Haut, qui pourtant peut se montrer un fou dangereux pour les autres. Quant au juste, il occupe une place centrale dans la première alliance. Les psaumes le célèbre et le magnifie en permanence. Le juste est celui qui se conforme à la loi divine et qui obéit aux valeurs qui la sous-tendent, telles que résumées dans le Décalogue, les 10 commandements. Seulement, voyez-vous, l'Ecclésiaste objecte en disant « Personne n'est assez juste sur cette terre pour faire le bien sans péché. » Entendez, c'est-à-dire sans faillir, sans rater son objectif. C'est que nul être humain ne peut être sans injustice et sans péché, même s'il peut évidemment y être plus ou moins enfoncé. Et c'est la vie de tout à chacun d'entre nous lorsqu'on se regarde dans la glace. Nous avons une part de clarté et une part d'ombre Et l'idée maîtresse dont l'Ecclésiaste déroule les fils est la suivante. L'Ecclésiaste nous dit « Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre ». C'est la base. Un abîme infini te sépare de Dieu. Aucune créature n'est capable de franchir cet abîme pour saisir le but dernier de toute chose. Voyez-vous, à nos yeux humains, ce qui est restera toujours un impénétrable mystère. C'est une illusion de penser que la foi nous rendrait semblables à Dieu, même un tout petit peu. Le monde est quelque chose que nous percevons, mais nous ne comprenons pas toujours tout. Et au bilan, le croyant ou pas, nous sommes en fait réduits à la même enseigne. Nous ne savons pas vraiment ce que nous voyons de ce monde. Ce n'est pas nous qui gouvernons l'univers. Et comme l'a dit un physicien récemment disparu, il y a quelque temps, Stephen Hawking, il dit « L'univers ne nous doit pas d'être compréhensible ». Et il ajoute que le premier ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais l'orgueil de croire que nous pourrions tout connaître. L'orgueil est aussi le premier ennemi de la foi. Alors, que faut-il faire? Rester à la surface des choses? Que constatons-nous? Un jeu des contraires qui se déploie partout. Vous voyez des énergies ambivalentes, positives, négatives, qui habitent les êtres et les choses. Et c'est le thème de la célèbre parabole du bon grain et de l'ivraie que Matthieu rapporte dans son évangile. Ce champ qu'un semeur a semé peut représenter aussi bien la nature, le temps de la vie, l'humanité, la personne ou même l'Église. En premier lieu, il n'est pas de champ sans bon grain, ce qui est réconfortant, puisque c'est une façon de dire que Dieu ne s'est pas trompé en créant tout cela. Ici-bas, il y a de la bénédiction à profusion pour tous. La suite est moins agréable à entendre. Il n'est pas de champ sans ivraie non plus. Selon certains, l'étymologie du mot ivraie serait en rapport avec l'ivresse, l'ivresse qui embrume l'esprit. Déduisons ce qui existe est susceptible d'équivoque. Rien n'est jamais totalement limpide. En fait, nous sommes entourés par l'indicidable. Dans ce champ plein de promesses, il n'est aucun moyen d'éviter ce qui contrecarre le bon grain et qui empêche sa germination. Et cette parabole va plus loin. Le propriétaire du champ interdit aux ouvriers d'arracher la mauvaise herbe, de peur que ce ne soit fatal au bon grain. Et on pourrait dire quelle étrange réaction de sa part, comme s'il indiquait qu'il y a une solidarité secrète entre le bien et le mal, dans laquelle mieux vaut ne pas intervenir. Cela, nous le savons d'expérience. Certaines fois, un mal est changé en bien. D'autres fois, un bien produit un mal. On ne le sait pas à l'avance, et même si on le savait, on ne pourrait pas faire qu'il en aille autrement. Alors, peut-être vous me ferez remarquer que selon la parabole, c'est un adversaire qui a semé l'ivraie. Le réformateur Jean Calvin suppose que Dieu a donné la permission à cet adversaire de semer l'ivraie. Et le réformateur avance même une image audacieuse. Il dit « Cet adversaire représente la main gauche de Dieu, étant entendu que sa main droite a semé le bon grain. » Il veut nous dire qu'on ne peut pas sortir de l'ambivalence. On se retrouve face au dilemme du désherbant dans les jardins. Le désherbant tue les mauvaises herbes, mais à la longue, finit par empoisonner le sol et le rend stérile. Alors voyez-vous, la vraie folie ne serait pas de rechercher la perfection de la sagesse et de la justice. C'est pourquoi l'Ecclésiaste ajoute ce très surprenant conseil. Ne sois pas trop méchant. Contiens ta méchanceté naturelle dans des limites acceptables. Accommode-toi de ta part d'ombre et fais avec. Les légendes affirment qu'un être humain qui perd son ombre est en grand danger de se perdre lui-même. Effectivement, chacun a sa part d'ombre et doit la préserver. C'est un devoir qu'on se constitue dans l'ombre. Les plantes ne se nourrissent-elles pas par leurs racines qui sont invisibles à l'œil nu ? Cela s'appelle l'intimité. Et la foi dans tout ça. Vous me ferez remarquer que de telles considérations risquent de corrompre notre foi. Pas du point de vue de l'Ecclésiaste, la foi se résume à ce qu'il nomme la crainte de Dieu, hein, l'Ecclésiaste. Il ne parle pas de peur, mais d'une forme d'ignorance reconnue et acceptée. En fait, le respect d'un mystère trop dense pour nous. Le musicien et chanteur John Lennon a dit un jour quelque chose de ce genre. « La vie est ce qui arrive quand on est occupé à faire d'autres plans. » Personne ne contrôle la vie. Elle apparaît et disparaît. Elle peut surgir à n'importe où et à n'importe quand. Et pour nous qui sommes chrétiens et qui venons célébrer la vie à travers la parole du Christ, la vie peut surgir même de la mort. Prenons-nous cela au sérieux? Même si cela nous désoriente, le dernier mot de la vie, ce n'est pas la mort, mais la vie. C'est pourquoi, quelles que soient les circonstances et les difficultés, il faut rester fidèle à la vie. L'écouter, la suivre, quoi qu'il arrive. Le Dieu ultime nous a rejoints, sans perdre de sa hauteur, il habite de sa présence intime nos traversées de l'entre-deux. Tout ceci débouche sur une éthique personnelle que j'appellerai la voie du milieu. Vous voyez, l'Ecclésiaste l'énonce ainsi. L'Ecclésiaste dit « Tiens à ceci sans lâcher cela ». Donc pour commencer, recherche l'équilibre, toujours instable. Naturellement, une dose de sagesse, une dose de justice, sont bienvenues pour autant qu'elles ne nous étouffent pas et soient au service de l'être humain, plutôt qu'à son détriment. Une société trop judiciarisée deviendra vite infernale. Renonce à la perfection pour ne pas t'étioler et laisse respirer les autres. Ensuite, reste ouvert à l'imprévu, qui probablement t'obligera à changer tes plans. Rien n'est plus ennuyeux qu'une existence trop bien réglé, trop prévisible, trop lisse, ce qu'on appelle une vie sans histoire. Je ne souhaite à personne une vie sans histoire. Une vie est faite pour avoir de belles histoires, intenses, parfois douloureuses, mais fortes. Quelquefois, se laisser dériver peut se révéler salutaire. Cela permet de relancer le jeu de la vie, de se trouver et de se laisser trouver par les autres. Relisez sous cet angle la parabole dite du fils prodigue. Et pour finir, souviens-toi que la foi véritable débouche sur l'insouciance de soi. Avoir la grâce ne revient-il pas à cesser de s'inquiéter de savoir si on a la grâce ou pas? Amen.
Thank you.
Je voudrais, à travers les ondes, entrer en communion les uns avec les autres, au-delà de là où nous sommes, pour partager ensemble la prière d'intercession. Seigneur, tu connais nos doutes, nos luttes et nos élans. Nous te confions ce monde où l'ombre semble parfois dominer. Les victimes de la guerre, des attentats, ceux qui cherchent un abri, ceux qui ont perdu du courage. Donne à ton Église de ne pas juger, mais de témoigner avec douceur et vérité. Apprends-nous à discerner le bien, à espérer qu'en toute espérance, et à marcher dans ta lumière. Et nous te disons, chacun là où nous sommes, la prière que ton Fils nous a apprise, et je vous invite à la dire en silence. Voilà le monde qui nous rejoint à travers ce chanteur qui a laissé toute son empreinte aussi dans cette vie-ci. Prends ton courage.
Pour tirer ta pauvre charrette par tous les vents et les tempêtes, pour marcher ton chemin tout droit sans trébucher à chaque pas, pour ne jamais baisser le front et sous l'insulte et sous l'affront, pour ne pas suivre les idées qu'on glisse sous ton oreille, pour pouvoir regarder en face cet homme qui vieillit dans ta glace. Prends ton courage à deux mains, suffira-t-il, je n'en sais rien, pour faire tourner dans le bon sens la grande roue de l'existence. Prends ton courage à deux mains, suffira-t-il, je n'en sais rien, pour faire tourner jour après jour la grande roue du temps qui court. Pour aimer ton unique femme parmi 300 millions de femmes, pour lui garder le cœur fidèle malgré le temps et les querelles, ne pas céder aux opinions des loups qui mènent les moutons, ni des moutons qui mènent les gens, comme ça arrive trop souvent. Pour bien savoir pour qui tu roules sur ce billard rempli de boules, prends ton courage à deux mains, suffira-t-il, je n'en sais rien, pour faire tourner dans le bon sens la grande roue de l'existence. Prends ton courage à deux mains, suffira-t-il, je n'en sais rien, pour faire tourner jour après jour la grande roue du temps qui court. Prends ton courage à deux mains, suffira-t-il, je n'en sais rien, pour faire tourner jour après jour la grande roue du temps qui court. Prends ton courage à deux mains.
Voilà, nous arrivons à la fin de notre culte dominical. Et je voudrais vous dire deux, trois petites choses avant de nous quitter. D'abord, vous dire que la vie, c'est comme le café. Vous pouvez mettre tout le sucre que vous voulez, si vous ne bougez pas la cuillère, il ne sera pas sucré. Rien n'arrive quand on ne bouge pas. Et je crois que ce qui est vrai pour la vie en général, l'est aussi en particulier pour le domaine spirituel. Alors, allons, il nous faut aller maintenant, comme des gens qui attendent l'aurore, puis le jour qui n'en finit plus. Allons, Nous ne pouvons pas nous installer. Allons, simple, comme des enfants, prudents comme des sages. Allons et ne tremblons pas. Allons pour aimer la terre et ses vivants, avec au fond de nous l'éclat de l'amour, la chaleur de la joie, la lumière de l'espérance. Dieu nous a choisis pour y faire sa demeure, chacun d'entre nous. Il accompagne nos pas, partout où nous allons. Que l'Évangile soit votre bâton de pèlerin. Que l'amour de Dieu soit le manteau qui vous réchauffe. Que sa parole soit l'étoile qui vous guide. Que l'amour du prochain soit la force qui vous meut. Et que la grâce de Dieu vous garde sur votre chemin. Bon dimanche.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir de son site internet nimes-église-protestante-unie.fr ou bien en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, 3 rue Claude Prousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par le pasteur Redouane S. Manti. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.